Alors, c'est la rentrée pour tout le monde, et notamment Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Donc, cette émission lecture de textes de littérature féminine et féministe, aujourd'hui prend un autre chemin.
Oui.
Bonjour
oui.
Jacqueline.
Bonjour, bonjour Odile, bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, effectivement, aujourd'hui, je voudrais faire une remarque liminaire, parce que au sein de notre émission consacrée à la littérature féminine et féministe, nous commençons une sous-série de lectures de textes non plus de femmes, mais d'hommes, certes très peu nombreux, mais qui ont écrit directement ou indirectement sur la situation singulière des femmes en ce monde. Cette sous-série, qui nous mènera jusqu'à la fin de l'année, commence par la lecture d'extraits d'un texte très réputé, tout comme l'est son auteur, Étienne de la Boétie. Ce texte, c'est le discours de la servitude volontaire. En introduction, nous citons cependant une femme, la traductrice du texte en français moderne, Séverine Auffray, A-U-2-F-E-R-E-T. Un extrait de sa postface paru en 1995 aux éditions Mille et Une Nuits. Le discours de la servitude volontaire, nous dit-elle, déborde de son cadre de la lecture politique traditionnelle. La fascination répétée qu'il exerce vient de ce qu'il jette aussi les bases d'une étude des rapports de domination-servitude dans les relations intimes, interpersonnelles. Le tyran n'est pas seulement une catégorie politique, on dirait aujourd'hui le dictateur en ce qui concerne le tyran politique. Donc le tyran n'est pas seulement une catégorie politique, mais aussi mentale. Ce rapport de domination-servitude ne se noue pas seulement dans la société constituée, mais encore au plus intime de la conscience. L'appel aux saveurs de la liberté, comme dit la Boétie, engage sans doute le peuple et le citoyen, la citoyenne, mais aussi et peut-être d'abord l'individu. Fin de citation de Séverine Auffray. C'est pourquoi il nous paraît opportun de lire ces extraits à l'aune du fonctionnement du couple, de la famille et de la figure du tyran domestique autant que de celle du tyran politique. Donc, je cite la servitude volontaire, première page. À la réflexion, c'est un malheur extrême que d'être assujetti à un maître dont on ne peut jamais être assuré de la bonté et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il le voudra. Or, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que l'on ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Les hommes nés sous le joug, puis nourris. Alors les hommes, au sens de la Boétie, c'est les hommes et les femmes, les êtres humains. Les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d'autres biens ni d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent pour leur état de nature l'état de leur naissance. Mais l'habitude qui exerce en toute chose un si grand pouvoir sur nous a surtout celui de nous apprendre à servir. Et comme on le raconte de Mithridate qui finit par s'habituer au poison, celui de nous apprendre à avaler le venin de la servitude sans le trouver amer. Pourtant, et en tout lieu, l'esclavage est amer aux hommes et la liberté leur est chère. Mais il me semble qu'on doit avoir pitié de ceux, de celles, qui, en naissant, se trouvent déjà sous le joug, qu'on doit les excuser ou leur pardonner si, n'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils, elles, ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c'est qu'ils naissent serfs, et qu'ils sont élevés comme tels. Les gens soumis, dépourvus de courage et de vivacité, ont le cœur bas et mou, et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien. Aussi font-ils tout leur possible pour mieux les avachir. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les médailles. On pense à la fête des mères, à la médaille de la famille remise aux mères de familles nombreuses. Donc les médailles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, c'est-à-dire volée, les outils de la tyrannie. J'ajoute qu'il le reste avec les peuples de notre temps. Ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran. En somme, par les gains et les faveurs qu'on reçoit des tyrans, on en arrive à ce point qu'ils se trouvent presque aussi nombreux, aussi nombreuses ceux et celles auxquels la tyrannie profite que ceux et celles auxquels la liberté plairait. C'est ainsi que le tyran asservit les sujets les uns par les autres. Ce n'est pas le tout de lui obéir, il faut encore lui complaire. Il faut qu'il, elle, soit attentif, attentive à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses gestes, que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient continuellement occupés à épier ses volontés et à deviner ses pensées. Est-ce là vivre heureux? Est-ce même vivre? Quelle condition est plus misérable que celle de vivre ainsi, n'ayant rien à soi et tenant d'un autre son aise, sa liberté, son corps et sa vie? Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, sous-entendu le tyran domestique ou le tyran politique, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. Alors, en conclusion, je reprends une citation de la postface de Séverine Auffray. Voilà ce qu'elle dit. « La Boétie jette une lueur traçante à chaque grande crise sociale. Ce La Boétie des réprouvés, des opprimés, des peuples en lutte pour la reconquête de leur liberté compose une figure, celle d'une révolte absolue contre toute oppression, toute exploitation, tout abus de force, toute corruption, toute mystification, bref, contre l'armature même du pouvoir. Ce qui fait son éternité, sa puissance de comète qui retraverse les siècles par période, c'est que cette analyse n'est pas d'aucun temps, mais de tous les temps. Ce que dit la Boétie de la peur, de la bassesse, de la complaisance, de la flagornerie, de l'humiliation de soi-même, de l'indignité, de l'aliénation des intermédiaires, les intermédiaires, les courtisans, les lieutenants, les porte-paroles divers, par sa vérité criante et combien actuelle, donne sainement froid dans le dos. La tyrannie est toujours prête à se renouer dans un rapport d'emprise partiellement consentie. Nous ne tirons pas du discours de la servitude volontaire une simple leçon politique, mais encore une leçon éthique, morale, comme l'appel à rejeter de l'intérieur de nous-mêmes la figure menaçante et cruelle et adorée du tyran politique et du tyran domestique. La Boétie se garde bien d'offrir aux problèmes qu'il pose, et cela est encore à mettre à son actif, une quelconque solution miracle, restant sur une position critique. Cette lucidité critique n'implique aucun pessimisme, et ce sera là le mot de la fin, mais une constante invite à la vigilance, tant collective que personnelle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je voulais rajouter que ce petit livre est petit par son format, il fait 10 cm par 15 cm, et petit par le nombre de pages, 48 pour le discours proprement dit et 4 pour la postface, facile à lire donc. Voilà.
Merci Jacqueline, et donc au mois prochain.
Bonne journée, le mois prochain, ce sera le mardi 6 octobre.
Merci, au revoir.
Au revoir.